Vortex et Rotative.
L'émission où on vous parle de nos livres de science-fiction préférés.
Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes sur Radio Dragon 96.8 et 104.4 et Campus Grenoble 90.8.
Aujourd'hui, nous allons vous parler du roman Le Pouvoir de Naomi Alderman, paru en 2017 sous le titre original The Power et en 2018 dans la traduction française de Christine Barbaste. Naomi Alderman est née à Londres en 1974 dans une famille juive orthodoxe qu'elle qualifie elle-même de peu conventionnelle, intellectuellement curieuse mais culturellement conservatrice et de classe ouvrière solide. Elle termine sa scolarité dans un lycée privé pour filles où elle est une des rares élèves pas riches, une période qu'elle décrit comme très stimulante mais aussi comme un déracinement par rapport à son milieu d'origine. Elle continue par des études de philosophie, politique et économie à Oxford et travaille ensuite dans l'édition de livres pour enfants et de publications juridiques. Elle s'installe pour un temps aux États-Unis où elle commence à écrire de la fanfiction, notamment pour Buffy contre les vampires. À son retour en Angleterre, elle complète sa formation par des études d'écriture créative et en 2006, elle sort son premier roman, Désobéissance. C'est l'histoire d'une lesbienne qui retourne dans sa communauté juive orthodoxe après la mort de son père. Le livre a connu un certain succès et a même été adapté à l'écran en 2018. Alderman raconte que l'écriture de Désobéissance a été pour elle l'aboutissement d'un long processus de confrontation critique au judaïsme orthodoxe.
Au début du roman, j'étais religieuse, et à la fin, je ne l'étais plus. Je m'en suis extraite par l'écriture.
La religion reste cependant un sujet très présent dans plusieurs de ses œuvres littéraires. Alderman écrit aussi un roman de la série du Doctor Who en 2011. Elle présente une émission radio sur l'histoire des sciences à la BBC et elle participe à la création de plusieurs jeux, dont Zombie Run, une application audio de fitness qui fait courir les joueuses pour échapper à des hordes de zombies. En 2012, Alderman devient la protégée de Margaret Atwood dans le cadre d'un programme de mentorat pour jeunes écrivaines. Dans la suite, les deux écrivent en alternance les 13 chapitres d'un roman feuilleton publié en ligne qui raconte la lutte d'une adolescente et de sa grand-mère contre une apocalypse zombie. On vous parlera ici du quatrième roman de Naomi Alderman, Le Pouvoir, qu'elle publie en 2017.
Le roman Le Pouvoir raconte une histoire où tout à coup les femmes seraient capables de produire de l'électricité et d'envoyer des décharges un peu à la manière des anguilles. Plusieurs d'entre elles découvrent en effet un jour qu'elles peuvent produire, mais aussi maîtriser, contrôler, faire circuler de l'électricité depuis leurs épaules jusqu'au bout de leurs doigts. Elles ont aussi la faculté de se transmettre ce pouvoir de l'une à l'autre. Elles ont alors la capacité d'infliger des décharges fulgurantes, parfois même mortelles, qui s'expriment comme une sorte de réflexe lors d'agressions patriarcales. Que s'est-il produit pour que les femmes développent ce pouvoir de mort? Comment la société est-elle bousculée par cette nouvelle réalité? Comment le monde et les positions sociales se réorganisent? Comment les hommes, dépourvus pour la plupart de ce pouvoir, vont découvrir le sentiment de peur et les processus d'infériorisation? Qu'est-ce que les femmes vont faire de ce pouvoir? Le roman raconte ce bouleversement sur une période d'une dizaine d'années et donne les points de vue de plusieurs personnages, un homme et quatre femmes qui maîtrisent plus ou moins bien l'électricité qui circule dans leur corps. Les premières expériences individuelles, les révoltes collectives, la répression, les prises de pouvoir, la guerre. Le roman commence et se termine par des échanges de courriers entre deux chercheuses, plusieurs millénaires après notre époque. Tout le texte qui suit est en fait le travail de recherche d'un historien. Celui-ci envoie son travail à une chercheuse afin d'avoir son avis et d'être soutenu, pour valider sa thèse, selon laquelle les femmes n'auraient pas toujours eu le pouvoir.
Cher Naomi, j'ai terminé ce maudit livre. Je te l'envoie, fragments et croquis inclus, dans l'espoir que tu me donneras quelques conseils éclairés, ou qu'à tout le moins, en le lâchant comme un caillou dans un puits, j'entendrai enfin son écho. Tu me demanderas avant toute chose de quoi il s'agit. J'avais promis de ne pas me lancer dans une énième étude historique aride. Il m'aura fallu écrire 4 livres pour prendre conscience qu'aucun lecteur lambda n'a envie de se frayer un chemin dans un maquis de preuves et que tout le monde se fiche pas mal des aspects techniques en matière de datation des découvertes archéologiques ou de comparaison des strates. J'ai vu à leur regard vide comment des auditoires entiers décrochaient sitôt que je tentais d'expliquer mes recherches. Ce que je te livre ici est donc une sorte de texte hybride qui, je l'espère, intéressera davantage le grand public. Ce n'est ni vraiment de l'histoire, ni vraiment un roman, plutôt une novélisation de ce que les archéologues s'accordent à reconnaître comme étant l'hypothèse la plus plausible.
J'ai trouvé ça intéressant, l'échange de courriers en introduction. D'une part, il montre bien la manière dont l'homme cherche une validation et la manière dont la femme répond d'un ton badin. Mais le fait de présenter le roman comme une recherche historique vient aussi souligner l'idée que l'histoire, avec un grand H, est écrite du point de vue des dominants et des vainqueurs, et qu'elle occulte des pans entiers, historiques et géographiques. Le fait de ne raconter qu'une partie de la réalité permettant d'asseoir le pouvoir en laissant penser qu'il y a un ordre bien établi qui n'a aucune raison de changer. Et l'échange entre les deux chercheuses montre bien à quel point certaines recherches et certaines personnes sont valorisées et soutenues dans leur sujet, quand d'autres sont invisibilisées et dénigrées.
Cher Neil, non, bien sûr que je n'entendais pas « amusant » dans le sens de futile ou d'idiot. J'espère que tu sais que jamais je ne penserai ça de ton travail. J'ai et j'ai toujours eu énormément de respect pour toi. Mais bon, puisque tu me le demandes, ton livre soulève pour moi une question évidente, tant il contredit l'histoire qu'on nous a enseignée enfant et qui est basée sur la tradition de récits remontant à des centaines, sinon des milliers d'années. Que s'est-il passé selon toi? Suggères-tu vraiment que tout le monde a menti? Ce serait énorme. Affectueusement, Naomi. Dans Le Pouvoir, Naomi Alderman raconte le bouleversement qu'amène ce nouveau pouvoir des femmes comme un processus lent, une évolution dans le temps, plutôt qu'un seul moment où tout basculerait d'un coup. On suit plusieurs personnages féminins qui viennent de développer ce pouvoir et qui prennent conscience petit à petit de ce que cela va signifier dans leur vie. C'est le cas par exemple d'Ali qui, après avoir subi des violences dans sa famille d'accueil depuis des années, a enfin pu mettre fin aux viols répétés par le père de famille. Une résistance à laquelle ce dernier n'a pas survécu.
Avant d'enjamber la fenêtre, Ali jette un dernier regard à Mr. Montgomery Taylor. Il semblerait qu'il n'ait rien vu venir, lui non plus. Mais elle espère se tromper. Elle aurait tellement aimé pouvoir le précipiter vivant dans la cuve d'eau bouillante. Elle songe, en se laissant tomber du palissage et en traversant la pelouse à l'arrière de la maison, qu'elle aurait peut-être dû essayer de faucher un couteau dans la cuisine avant de partir. Puis elle se souvient, ce qui ne manque pas de la faire rire, que, mis à part pour couper son dîner, elle n'a pas vraiment besoin d'un couteau. Pas le moins du monde, même.
Les filles doivent apprendre à se servir de ce nouveau pouvoir. Ça se passe parfois, malgré elles, de manière plutôt incontrôlée. Mais avec de l'entraînement, elles peuvent apprendre à le maîtriser. Certaines se lancent carrément dans une sorte d'auto-formation poussée et vont étudier plus méthodiquement quelles possibilités cela leur ouvre. Car l'électricité qu'elles savent désormais produire peut servir à faire mal et à tuer, mais si elle est dirigée précisément et de manière très contrôlée, elle peut servir à plein d'autres choses.
Ces poissons sont des anguilles électriques. Elles peuvent faire des trucs incroyables. Elles administrent des chocs à leur proie sous l'eau. Ouais, C'est ça. Ali fait jaillir un petit arc électrique entre son pouce et son index. Dans l'aquarium, les anguilles s'agitent. Elles peuvent également télécommander les muscles de leur proie en interférant avec les signaux électriques émis par son cerveau. Et faire en sorte que celles-ci s'engouffrent directement dans leur bouche, par exemple. Ali médite cette information un long moment. Elle repose la main sur la paroi de l'aquarium et regarde les anguilles. C'est un pouvoir incroyable, effectivement, qui exigerait de ta part du contrôle, mais ça, tu as toujours su le faire, ma fille, ainsi qu'une grande habileté, mais ça, ça s'apprend.
Alderman raconte de manière assez convaincante comment ces changements se répercutent dans la construction sociale des personnes. Et les hommes ne sortent pas non plus inchangés des agressions, blessures et humiliations par des femmes. Là encore, ça n'arrive pas d'un coup, mais ça évolue avec le temps et les expériences répétées.
Il verse quelques larmes. Des larmes dues à la commotion, la honte, la crainte, l'humiliation et la douleur. Tunde reconnaît ses émotions pour les avoir éprouvées le jour où Enuma l'a touché. Il a écrit, dans les notes manuscrites destinées à son livre, « Au début, nous taisions notre douleur parce qu'elle n'était pas virile. Aujourd'hui, nous continuons à la taire par peur, par honte, et parce qu'on se sent seul et désespéré, chacun dans son coin. Il est difficile de préciser à quel moment ces dernières raisons ont pris le pas sur l'autre. »
Le retournement genré ne s'opère pas uniquement de manière subjective ou au niveau individuel. La perception sociale s'adapte aussi à cette transformation et avec elle, les pratiques restrictives.
Ils avaient séparé les garçons et les filles dès le cinquième jour, quand ils avaient compris que c'était elles les fauteuses de troubles. Une décision qui coulait de source. Des parents recommandaient déjà à leurs fils de ne plus sortir seuls, de ne pas trop s'éloigner de la maison.
Tout ça laisse évidemment aussi des traces dans les interactions entre les personnes. Dans le roman, il y a quelques binômes hommes-femmes qu'on suit sur plusieurs années. Par exemple, les deux présentatrices du journal télévisé. À mesure que le roman avance, le statu quo entre les deux change. Le journaliste qui avait l'habitude de faire des blagues sexistes dirigées contre sa jeune collègue, ce que toute l'équipe considérait comme drôle et pas méchant, se voit maintenant couper la parole et traité avec condescendance par cette même collègue, qui, désormais, bénéficie à son tour du soutien de l'équipe. Alderman décrit très bien comment ce shift de pouvoir s'opère lentement, comment cela ne se passe pas seulement entre deux personnes, mais les appuis ou sanctions qui viennent de leur entourage, en réaction à certains comportements, font partie d'une configuration sociale complexe, engagée tout entière dans un processus de transformation.
Vous êtes toujours sur Radio Dragon et Campus Grenoble avec Vortex et Rotative.
Aujourd'hui, on vous présente le roman Le Pouvoir de Naomi Alderman.
Dans le roman Le Pouvoir, Naomi Alderman amène des réflexions sur la manière dont le pouvoir s'exprime et s'exécute à différentes échelles. Les hommes échangent sur les méthodes d'asservissement, sur comment ils sont rendus dociles, coincés entre la peur et la dépendance. Par exemple, on y reconnaît en miroir les analyses féministes sur les violences conjugales et la question de l'emprise, ou sur des outils de contrôle par la paix sociale.
Je parie que, une ou deux fois, une femme a volé à ton secours, pas vrai? Qu'elle a veillé sur toi, qu'elle t'a aidé, protégé quand tu étais en mauvaise posture. Prudemment, Tunde fait oui de la tête. Ben tiens, c'est le coup classique. Elles nous veulent dociles, indécis. C'est une tactique militaire vieille comme le monde. Si tu ne montres que le visage de l'ennemi, le peuple saura qu'il doit te combattre. Alors que si tu distribues des bonbons aux enfants et des médicaments aux malades, tu sèmes la confusion dans l'esprit des populations et elles ne savent plus comment te haïr. Tu comprends ?
Au-delà du titre, le pouvoir et son exercice est l'une des questions centrales du roman. Naomi Alderman a choisi des personnages précisément avec cet axe de lecture. Chaque narratrice appartient à une sphère du pouvoir. Ali sera une figure centrale de la religion. Margot est une figure politique, élue maire puis au gouvernement. Roxy est la fille d'une grande famille mafieuse et enfin, Tunde fait partie des médias en tant que reporter et blogueur. En partant de ces sphères particulièrement dirigées par des hommes, l'autrice va décrire la manière dont le pouvoir et ses détenteurices vont changer.
En bas, Margot expose les mesures de soutien dont ont tant besoin les seniors vulnérables. Elle mobilise toute son attention pour n'en oublier aucune. Dans un coin, cependant, son cerveau continue à mouliner cette question qu'Alan lui a posée. Le veut-elle ? En veut-elle ? Et pourquoi ? Margot pense à Joss, à l'aide qu'elle pourrait lui apporter si elle avait plus de pouvoir et d'influence, et à toutes les réformes bénéfiques pour l'État qu'elle pourrait mettre en œuvre. Cependant, tandis qu'elle s'agrippe à son pupitre en carton et qu'elle sent la charge monter en puissance le long de sa clavicule, presque malgré elle, elle pense surtout à la tête que ferait Daniel si elle gagnait l'élection. Oui, elle veut, parce qu'elle veut le démolir.
La prise de pouvoir est permise par cette nouvelle capacité des femmes à produire de l'électricité. Mais elle n'est effective que parce qu'au sein de ces grandes organisations du pouvoir, les médias, l'administration, la religion, et même au sein des organisations mafieuses, les femmes vont prendre des places stratégiques, avec des manœuvres et par des assassinats déguisés, par le contrôle et la peur.
Nul besoin de miracles à foison. Ni pour le Vatican, ni pour une bande de filles à fleur de peau craignant pour leur vie, parquées ensemble des mois durant comme dans une basse-cour. Non, il n'est pas besoin de miracles à foison. Deux suffisent amplement. Trois, c'est déjà l'abondance.
L'un des propos du livre est qu'à partir du moment où la société est organisée autour de rapports de domination, des personnes utilisent leur pouvoir pour en tirer bénéfice. Chaque personne réagit de manière spécifique et personnelle à ces nouvelles capacités, mais le roman montre aussi comment les rapports de domination ne peuvent pas exister sans forme de violence. Dans ce roman, le processus est exacerbé par un besoin de vengeance des femmes après des années de brimades et de violences patriarcales. Et cela mène à une sorte de guerre, car les femmes se battent le pouvoir avec les hommes qui ne veulent évidemment pas le lâcher.
5 jours se sont écoulés depuis cette conversation lorsque Victor Moskalev succombe à une crise cardiaque durant son sommeil. Et la communauté internationale n'est pas au bout de ses surprises quand, dans la foulée de cette disparition, la Cour suprême de Moldavie, lors d'une session convoquée en urgence et par un vote à l'unanimité, confie les rênes du pays à son épouse Tatiana. En temps voulu, des élections seront organisées et Tatiana présentera sa candidature en bonne et due forme. Mais en cette période de troubles, le plus important est de maintenir l'ordre. Il se peut, note Tunde dans son journal de bord, qu'on ait sous-estimé Tatiana Moskalev. Il s'avère qu'elle ne manque ni de sens politique ni d'intelligence, et qu'elle a su admirablement tirer parti de l'avantage qui était le sien. Pour sa première apparition publique, elle arborait une petite broche en or en forme d'œil, certains y ont vu un clin d'œil discret au mouvement autour de la déesse, dont l'ampleur et la popularité ne cessent de croître sur Internet. D'autres ont remarqué combien il était ardu de différencier les conséquences d'un choc électrique habilement administré et une banale crise cardiaque, mais on ne dispose d'aucune preuve susceptible d'étayer ces rumeurs.
J'ai trouvé ça intéressant comme analyse. Les objectifs des luttes féministes ne seraient pas de donner le pouvoir aux femmes, cela ne mènerait certainement pas à une société intéressante, mais plutôt de détruire les dominations patriarcales. Au cours du roman, les femmes s'imposent dans les différentes couches de l'organisation sociale. Les violences vis-à-vis des hommes vont être banalisées et invisibilisées. un miroir de ce que peuvent vivre les femmes dans la société patriarcale actuelle.
Tunde recueille plusieurs témoignages affirmant que la police, en Bessapara, n'enquête plus sur les meurtres d'hommes. Si un homme est retrouvé mort, c'est qu'un gang vengeur l'a châtié pour ses méfaits perpétrés dans l'ancien temps. Même s'il s'agit d'un jeune garçon, s'indigne un père dans son salon surchauffé, dans un village à l'ouest du pays. Quel méfait un garçon qui a aujourd'hui 15 ans aurait-il pu commettre dans l'ancien temps? Tunde ne fait strictement aucune allusion à ses interviews sur sa chaîne YouTube. Il sait comment cela se terminerait. Par un coup frappé à la porte à 4h du matin, avant d'être embarqué manu militari à bord du premier avion quittant le territoire.
On peut donc lire dans ce roman une critique des rapports de domination. Comment le pouvoir, symbolique, religieux, politique, médiatique, mène à protéger les catégories sociales qui le détiennent. Les personnes dans des positions dominantes peuvent utiliser la violence comme un outil, et pour cela, cette violence peut être légalisée ou légitimée. En tout cas, elle sera entre leurs mains pour maintenir un ordre social.
Les voies du pouvoir sont impénétrables. Il agit sur les gens et les gens agissent sur lui. Quand le pouvoir existe-t-il? Uniquement lorsqu'on en fait usage. Un des aspects intéressants du livre est la diversité économique et géographique. Parmi les protagonistes, il y a une orpheline américaine qui a grandi dans des familles d'accueil, un jeune journaliste en herbe nigérian, une politicienne américaine d'un milieu plus aisé et la fille illégitime d'un mafieux britannique. Les personnages viennent donc de différents endroits en termes de milieu social et sur la planète. Une partie de l'histoire se passe aux États-Unis, un autre endroit important se situe en Moldavie et, de manière plus anecdotique, le récit se déroule au Nigeria, en Arabie Saoudite, en Angleterre. C'est intéressant parce que ça permet de raconter l'histoire de différents points de vue, ça rend compte du caractère global du phénomène et ça permet aussi à l'autrice de développer dans le récit une diversité de réactions et d'évolutions possibles qui ne sont pas pareilles partout sur le globe. Par contre, le problème avec tout ça, c'est que l'écriture de Naomi Alderman me semblait assez ambivalente à ce sujet. À des endroits, cette diversité est décrite avec une grande finesse, pas réductrice du tout, rendant compte de la complexité des vécus et contextes. À d'autres endroits, on a surtout l'impression qu'elle va de cliché en cliché. Par exemple, quand elle parle de femmes en Moldavie qui voulaient travailler comme secrétaires en Europe de l'Ouest, mais qui se retrouvent prisonnières de réseaux de prostitution forcée. Leur nouveau pouvoir leur permet alors de se libérer et de se venger, certes, mais ça renforce vraiment trop les représentations stéréotypées des réalités migratoires et des travailleuses du sexe érigées en victimes absolues. Et même si le trafic sexuel peut être une problématique réelle, en Europe de l'Est et ailleurs, c'est bien trop simpliste dans le roman, d'autant plus que ces personnages ne sont pas plus développés que ça.
Un des bouts énervants de ce livre, c'est aussi son côté essentialiste, même s'il est contrebalancé à plein d'endroits. Le présupposé de base est que les hommes ont le pouvoir parce qu'ils ont une supériorité physique sur les femmes, et que celles-ci prennent le pouvoir grâce à une nouvelle capacité biologique. La question est intéressante. Que se passerait-il si les femmes avaient un pouvoir de vie ou de mort sur les hommes ? Mais l'idée que le patriarcat serait lié à la force physique des hommes est vraiment réductrice. Cela nie l'organisation sociale, le pouvoir symbolique, toute la construction sociale qui permettent la perpétuation du patriarcat. De plus, cet essentialisme mène directement à des paragraphes très transphobes.
D'étranges mouvements voient le jour dans le monde, mais également ici aux États-Unis d'Amérique. Il suffit de regarder sur Internet. Des garçons qui se travestissent en filles pour paraître plus puissants. Des filles qui se travestissent en garçons pour se débarrasser de la symbolique de ce pouvoir ou pour mieux sauter à la gorge des crédules, tels des loups déguisés en agneaux.
On entend en miroir de ce passage les discours féministes transphobes de base. les hommes trans qui chercheraient des privilèges masculins et seraient traîtres à la cause féministe, et des femmes trans qui seraient de dangereuses infiltrées. Des discours niant les réalités et besoins individuels avec une vision quasi complotiste, mais surtout faisant l'impasse sur la transphobie de ce monde, sur l'organisation cis, hétéro, patriarcale de la société, nous demandant de rester dans des rôles bien figés. En même temps, d'autres passages du livre viennent contrebalancer ce point de vue et amènent de la complexité avec des personnages qui ne sont pas complètement binaires. Enfin, un des endroits où le texte en français est bien à côté de la plaque, c'est la question du langage. Même dans les courriers entre les deux chercheuses, les accords sont au masculin. Le terme « soldat », par exemple, est un terme au masculin, et aucun équivalent féminin n'a été utilisé. En anglais, le terme « soldier », même s'il est neutre, renvoie à un imaginaire masculin. Dans une autre société, il pourrait aussi bien renvoyer à un imaginaire féminin. Mais en français, le terme « soldat » est un terme masculin, et ce n'est pas très crédible. Le langage s'adapte perpétuellement à la société qui l'utilise. Il est représentatif des réalités sociales. Alors, ça ne marche pas trop qu'une société gouvernée par les femmes utilise l'accord masculin. C'est vraiment dommage que la traductrice Christine Barbast et ou la maison d'édition n'aient pas été plus audacieuses dans la recherche de solutions intéressantes à ce sujet.
Voilà, on approche de la fin de notre émission. Même si on a quelques critiques, on a assez bien aimé ce roman de Naomi Alderman qui stimule pas mal de réflexions. Notamment sur cette expérience de changer de position sociale, de gagner en pouvoir. Venant de la classe ouvrière, l'autrice a elle-même cette expérience de transfuge de classe. Dans une interview en 2016, elle parle de sa scolarité dans un lycée privé pour filles.
Ce que font ces écoles, si vous venez d'un milieu comme celui-là, c'est essentiellement un processus de déracinement. Pendant des années, j'ai méprisé ma mère pour faire du shopping chez Asda. Et maintenant, j'en ai vraiment honte.
Plus loin, elle raconte ses difficultés à l'université de Oxford, qu'elle qualifie comme un endroit abusif, autant au niveau social qu'académique.
Je pense qu'à un certain niveau, je me suis effondrée émotionnellement. Pas de manière dramatique, juste une longue et lente perte de confiance en mes capacités.
Peut-être ce sont ces expériences-là qui lui permettent de raconter de manière aussi sensible le lent processus que ça représente pour se sentir légitime dans une nouvelle position et se rendre compte quand on a un nouveau privilège.
C'était le 15e épisode de Vortex et Rotative sur le roman Le Pouvoir de Naomi Alderman. Paru en 2018 chez Calmant Lévy dans la traduction française de Christine Barbast et un an plus tard en livre de poche.
Ce roman, qui fait 512 pages en version poche, a gagné le Bayliss Women's Prize for Fiction, un des plus prestigieux prix littéraires britanniques.
Il a été traduit en plus de 30 langues et une adaptation en série télévisée est prévue pour cette année.
Cette émission a été montée avec des bouts de musique de Doris Norton, une pionnière italienne de la musique électronique.
Au revoir.
Au revoir et à la prochaine.
Vortex et Rotative. Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.